France Culture.
Et pour débattre aujourd'hui autour de la table, Catherine Robin, grand reporter, critique de bande dessinée à Elle, bonjour.
Bonjour Marie.
Lucie Servin, journaliste spécialiste de littérature et de bande dessinée, bonjour.
Bonjour Marie.
Et bienvenue à toutes les deux.
L'environnement familial est très présent dans cet album, puisque dans la notion de déclassement, il y a également celle de rapport aux autres. Et je décris ma famille, mon entourage, qui ne se rend pas compte de ma situation. Alors c'est très ambivalent, parce que moi-même, je ne fais rien pour demander de l'aide, pour plein de raisons différentes, notamment celles des raisons de honte sociale, d'imaginaire relié à la pauvreté, qui, moi, ça ne pouvait pas m'arriver. Je m'appelais Dupré Latour, c'était un nom bourgeois, je pouvais pas être pauvre. Et donc, demander de l'aide dans ces circonstances-là, à la famille, était très complexe. Donc, je naviguais entre cette envie, ce besoin d'être aidée et cette nécessité de cacher ma situation.
Vous venez d'entendre Florence Dupré-Latour. Elle était l'invitée de Marie Richeux dans le Book Club sur France Culture mardi dernier. D'ailleurs, cet entretien est disponible en podcast. Jeune et fauché, c'est le titre de sa nouvelle bande dessinée. Un titre plus léger quand même que le contenu de cet album où l'autrice parle d'argent et du manque d'argent. Née dans une famille aisée, vous l'avez entendu, et redoutablement pingre, elle s'est retrouvée confrontée à la précarité en choisissant des études d'art. Précarité qui s'est transformée en véritable pauvreté quand elle a dû assumer seule ses deux enfants. Florence Dupré-Latour raconte la honte qu'elle a ressentie et l'aveuglement de ceux qui auraient dû l'aider, ses parents. On commence par un avis en quelques mots, Catherine Robin.
Eh bien, je trouve que Florence Dupré-Latour, elle construit une œuvre autobiographique intéressante depuis Cruel, son premier opus autobiographique, toujours dans le même style, assez naïf et en même temps assez trash, frontal, sans vraiment de filtre. Vraiment, je trouve que c'est son style et ça donne quelque chose de très singulier, à la fois drôle et par endroits assez malaisant, comme on dit aujourd'hui. Et je trouve que cet album-ci, le malaise l'emporte sur le rire, largement.
Lucie Servin.
Oui, je trouve, il y a le malaise, mais pour moi, il y a aussi le rire, parce qu'il y a quand même beaucoup d'ironie. Et surtout, l'ironie, elle ne cherche pas à masquer chez Florence Dupré-Latour. Elle cherche justement à casser les rochers. D'ailleurs, elle se cache derrière des rochers. Et il y a cette espèce de mise à nu. Et la mise à nu dans cet album, elle traite non pas tellement de la pauvreté que du sentiment de pauvreté, et comment on se construit en fait autour du manque, et ça pose forcément la question de la valeur de l'argent dans notre société.
Alors, Catherine Robin, le malaise l'emporte cette fois-ci. Qu'est-ce qui fait qu'il y a une bascule? Parce que le malaise, elle en joue, elle en a toujours joué, Florence Dupré-Latour. Alors pourquoi là, pour vous?
Parce que c'est un sujet très intéressant, l'argent. Ouais. Et qu'on est à la fois dans l'intime et le politique. Quand elle parle de l'intime, je la trouve intéressante parce que, en fait, elle nous raconte combien ses parents se servent de l'argent comme d'un instrument de rétention. Alors, ceux qui connaissent pas l'histoire de Florence Dupré-Latour, telle qu'elle nous la raconte depuis le début, elle vient d'une famille très aisée. Elle est née en Argentine dans une famille d'expatriés et très catholique, vraiment très réactionnaire, conservateur. Voilà, c'est pour ça qu'elle a écrit celle sur son éveil à la sexualité, notamment. Donc, ils se servent, ses parents, de l'argent comme un instrument de rétention, un moyen d'exercer le pouvoir sur leur fille, puisqu'elle est jumelle. Elle l'a expliqué, elle l'a raconté dans son album Jumelles, justement. Et cette rétention d'argent les empêche de s'émanciper, d'accéder à une libération. Donc, je trouve que le sujet est très intéressant d'un point de vue intime. Elle cherche l'amour de son père et cet amour, il prend la forme de l'argent, quoi. Mais dès lors qu'on bascule sur le terrain politique, parce qu'on peut pas faire un livre sur cette question sans avoir une vision politique des choses, là j'ai vraiment été très mal à l'aise. Non pas parce que je considère que les riches n'ont pas le droit de s'aventurer sur ce terrain de l'argent, même si on est plus habitué au récit autobiographique des transfuges de classe. Finalement, on a plus lu de choses sur cette question-là, donc c'est d'autant plus intéressant. Mais je trouve que quand on vient d'une classe privilégiée et qu'on veut raconter plus que la traversée de la pauvreté, mais l'angoisse suprême de tomber dans la précarité et la pauvreté, parce que c'est ça le livre, c'est vraiment l'angoisse de devenir pauvre, eh ben je trouve qu'il faut avoir une bonne distance par rapport à l'endroit d'où on vient. Il faut mettre en scène assez finement sa conscience de privilégié, ce qu'elle fait dans le livre. Elle commence, la première page, c'est « je suis née dans un milieu aisé », puis elle met tous les synonymes argotiques ou non, de l'argent, le flouze, le pognon, etc. Elle a conscience tout à fait d'être venir d'un milieu privilégié. Il faut aussi avoir du recul sur le mépris de classe qu'on a pu ressentir du fait de l'endoctrinement qu'on a subi enfant, puisque c'est vraiment véritablement un endoctrinement qu'elle a subi, notamment, on y reviendra plus tard probablement, et je trouve qu'à certains endroits, elle échoue sur ce plan-là, Florence Dupré-Latour, et qu'elle demeure le fruit de la classe dominante dont elle est issue, et que ça se voit dans certaines planches vraiment très précises, et que ça se voit aussi dans l'ensemble du livre, en fait. Son objectif, ce qu'elle va nous raconter, c'est surtout sa volonté de revenir, de regagner la classe dont elle est issue. Après, je reviendrai peut-être dans le détail et je vais laisser Lucie parler, mais je trouve vraiment qu'il y a... Je pense que c'est malgré elle, hein, mais qui a quelque chose qu'elle n'a pas déconstruit, qu'elle est restée au ras de son vécu et qu'il me manque quelque chose. Je prends juste un exemple. Elle est vendeuse, elle doit travailler, elle est très gênée à l'idée de travailler, elle est même humiliée à l'idée de travailler dans un magasin pour vendre des rideaux. Ce que je peux comprendre, elle sert tout à coup des gens qui sont issus de son milieu. Donc c'est tout à fait entendable qu'elle ait honte, qu'elle soit mal à l'aise face à ça. Mais à aucun moment dans le livre, on va comprendre si elle a honte de cette honte qu'elle a pu ressentir. Mmh. Est-ce qu'elle le dit dans le livre ? Moi, je ne l'ai pas lu, en tout cas.
Lucie Servin.
Je pense qu'on est quand même devant un livre. Moi, ce que j'ai ressenti dans ce livre, c'est la notion de chantage. C'est-à-dire qu'il y a un chantage affectif des parents, mais il y a aussi un chantage de la société et de ce qu'on doit représenter quand on vient d'un tel milieu. Comme Dupré-Latour, avec rien que son nom, qu'elle essaye de salir, en fait, en disant Dupré-Latour de la planche pourrie. C'est aussi un livre sur le passage à l'âge adulte. Donc c'est ce moment où, en fait, on prend son indépendance et il y a une rupture avec les parents. Je disais que c'était un livre qui parlait finalement de l'argent et on se demande si finalement la question n'est pas justement cette guerre au milieu. Et là, on parlait de la question du transfuge, et à l'inverse ici, la question du déclassement. Ensuite, effectivement, il y a la perte de capital économique, et ça, elle en parle. Et il y a ce capital socio-culturel qu'elle sait qu'elle a. Et on le voit directement dans l'écriture, en fait, de Florence Dupré-Latour, parce qu'elle a une écriture très soutenue. Elle soutient tous les niveaux de langage. Mmh. Et là où je trouve qu'elle arrive quand même à essayer de fissurer les apparences, hein, parce que c'est ça aussi de ce dont elle parle, c'est-à-dire cette manière de se tenir bien droite, parce que on a cette espèce de manière inculquée bourgeoise de toujours être bien mise, de toujours bien parler. Et ça se voit dans cette voix off, etc. Et en même temps, elle a un dessin qu'elle va aller avec des personnages qui sont très très réduits au minimum, mais en même temps très expressifs, avec cette manière de faire de la BD presque comme du dessin de presse. Mmh. Et là, je crois qu'elle essaye de trouver un ton juste. Pour rester à sa place, en fait, avec cette conscience d'avoir fait la faillite du capital économique, mais d'avoir toujours ce rapport au capital socioculturel. Et pour moi c'est un livre d'une abandonnée. C'est quelqu'un qui se retrouve très isolé et qui dans son isolement, essaye de se reconstruire, par rapport au rapport aux autres, en cherchant du collectif. Et il y a un autre thème dans ce livre, c'est la vie d'autrice, c'est-à-dire elle passe par l'art. Et elle dit, donc c'est avec un représentant Picsou, quoi, que le statut de d'artiste est le rêve ultime du capitalisme. C'est-à-dire que c'est la précarisation totale.
Volontaire, presque, de l'auteur.
C'est espèce d'intériorisation, on nous fait croire qu'il y a encore une fois une question de valeur, de valorisation à être le plus précaire des précaires et d'en vouloir, etc. Et je pense que dans ce livre, il y a ce cheminement aussi qui est la séparation des parents pour aller vers un autre collectif. Et c'est là où c'est politique. C'est-à-dire qu'il y a cet abandon qui réduit la personne à un individu, et cet individu qui se cherche en fait des frères, une autre famille. Et cette famille, elle la cherche chez les artistes, et ce livre se finit quand même sur un plaidoyer pour la continuité des droits, des revenus,
pour un nouveau statut de l'auteur artiste.
Pour un nouveau statut, et pour revendiquer finalement chez l'artiste la dimension de travailleur.
Mmh. Donc, oui, Catherine Robin.
Oui, pour moi, enfin, j'ai bien vu et j'entends aussi votre lecture, Lucie. Mais je trouve que c'est assez à la marge, cette question ça apparaît, hein, bien évidemment, le choix de l'art, mais finalement, je ne sais pas si c'est vraiment central. En tout cas, moi, ma lecture a vraiment été gênée par le manichéisme dont je trouve elle fait preuve dans sa vision. C'est intéressant parce que vous parlez de comment elle veut garder, comment elle veut rester de sa classe, finalement. Enfin, je crois avoir compris ça, mais finalement, elle le demeure dans le regard qu'elle pose, notamment sur la figure du pauvre. Elle emprunte d'ailleurs souvent ce mot, le pauvre. Mmh. Le pauvre, il se tient voûté. Le pauvre, il est gentil, il est invisible, il est silencieux, il avance dans la rue. Elle a vraiment une vision assez caricaturale. De la pauvreté. Et il y a deux planches particulièrement, moi, qui m'ont vraiment un peu interpellée, quoi. C'est cette planche pleine page qui dit « Heureusement, sans argent, nous nous évadions grâce à notre bien le plus précieux, l'imaginaire. » Elle est dans son appartement insalubre, roulée dans son sac de couchage. Donc, elle est vraiment en situation de précarité. Mais elle a quand même cette phrase qui est quand même un petit peu problématique. Est-ce que c'est vraiment... est-ce que quelqu'un vraiment qui connaît la grande, grande précarité, est-ce que il aura cette phrase? Et puis, là, très peu de pages après, elle a aussi cette maladresse, je trouve. Je me permets de le lire, mais « La peur de manquer s'infiltrait dans chacune de mes veines insidieusement. » Donc ça, c'est vraiment sur son angoisse de manquer. « Et parfois, je regardais les Noirs et les Arabes pauvres avec envie. Eux, au moins, ils se reconnaissent entre eux. Ils font partie d'une communauté. Ils peuvent se serrer les coudes. » Mais je chassais bien vite cette idée de mon esprit, fruit de mon immense sentiment de solitude. Ce sont des phrases qui ne sont pas anodines. Alors certes, elle les chasse, elle chasse cette pensée, elle est très sincère.
Oui, c'est ça, elle regarde est extrêmement en face sincère, ses manquements aussi.
Mais elle pense, mais quand elle écrit ça, est-ce qu'elle ne veut pas à un moment nous expliquer que finalement tout le monde est dans la solitude? Vous le disiez, Lucie, la pauvreté, ça isole, qu'on soit noir, qu'on soit arabe. Voilà, elle a eu cette pensée, elle la chasse, mais... à la sincérité de son propos, moi j'oppose la sincérité de la critique qui fait que j'ai trouvé une forme d'indécence à certains endroits et à certaines pages du livre, tout comme la précarité des auteurs. Elle parle du premier livre qu'elle va éditer. Elle retourne chez ses parents qui ont un grand domaine. Alors c'est très humiliant pour elle parce qu'elle retourne dans le giron parental qu'elle déteste, ce père abandonnique, indifférent à son sort, cette mère très méchante, visiblement. Enfin, et elle retourne écrire là-bas, mais elle dit qu'elle reçoit une avance de 15 000 euros, une avance ou en tout cas qu'elle touche 15 000 euros pour son livre. Donc tout ça est très ambivalent aussi. Et encore une fois, la fin du livre, c'est, je divulgue, gâche rien, mais elle retrouve un appartement beau et splendide, comme elle le dit. Son papa lui donne de l'argent. Une des dernières planches, elle est dans les bras de son papa, avec comme Picsou, avec un gros paquet d'argent. Et on se dit, oh là là, est-ce que tout est réglé? Politiquement, psychanalytiquement, voilà, je ne sais pas. Finalement, elle a rien questionné, sinon le fait de vouloir à un moment rebasculer du bon côté.
On va dire quand même un mot, puisqu'elle sort un autre album, là, chez Casterman, Les Moribonds. une fiction, ça n'a rien à voir. Au départ, a priori, c'est l'histoire d'un vampire qui doit prendre soin d'humains s'il veut continuer à survivre à l'apocalypse. Mais Lucie Servin, vous y voyez, vous, un lien en tout cas.
Ah bah, très clairement, parce que donc là, on revient au récit de genre. Et voilà, donc on a dit que Florence Dupré-Latour avait tout ce cycle en fait autobiographique. Et encore une fois, elle l'aborde depuis maintenant plus de 10 ans, ouais. même avant. Et elle a quand même cette espèce d'envie de faire des pas de côté vis-à-vis de la fiction. Et là, elle le fait très bien, parce qu'elle va vers un récit de genre, un récit de vampires, de zombies, de morts-vivants, pour offrir en fait une fable politique qui réactualise un peu la lutte des classes et qui la dépoussière en fait quelque part, puisque là on est dans ce contexte de la fin du monde, du dérèglement climatique, de la disparition qui se traduit par une invasion de zombies, et là on a encore une fois une histoire de déclassement de cette espèce de vampire, avec toujours cette espèce de voix off qui est une espèce de litanie du prélatourienne, je dirais, voilà. Et qui est obligé de s'occuper de son cheptel d'humain s'il veut se nourrir.
Son garde-manger, en fait. Voilà.
Donc voilà. Et finalement, on arrive à la chute et à la dégradation de ce vampire qui passe du seigneur à l'esclave. Et cette dégradation, elle passe par le travail. Et c'est là que le lien se fait avec Jeanne et Fauché, et même tout ce que vous évoquiez finalement, Catherine, passe par cette question finalement de cette classe privilégiée qui se retrouve à travailler, quoi. C'est vraiment le chemin du seigneur au prolétaire, quoi. Et là où il y avait toute l'ambiguïté dans Jeanne et Fauché, c'est-à-dire comment une ancienne grande bourgeoise peut aspirer à devenir un prolétaire, eh ben c'est complètement dynamité dans Les Moribonds, puisque là on arrive à une fable où finalement le vampire finit esclave, mais finit encore une fois seul, et puis il y a cette exploitation qui est reproduite par les dominés dominants qui est pas réglée, quoi.
C'est donc Les Moribonds de Florence Dupré-Latour chez Casterman, et Jeanne et Fauché, c'est Charivari et Dargaud, ça sort le 9 janvier.